Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, notre tour d'horizon de l'actualité locale au pays. Boris Chassagne avec vous pour les 30 prochaines minutes. Les travailleurs saisonniers craignent de tomber dans le trou noir de l'assurance emploi et de perdre leurs prestations. La réforme attendue ne vient pas.
Le fait qu'il y ait de l'assurance emploi permet à nos communautés de survivre. Parce que les gens peuvent rester chez eux. Ils choisissent d'occuper ce territoire-là. C'est magnifique, la Basse-Côte. On a le droit de vivre en Basse-Côte-Nord. On a le droit de vivre des produits de la pêche, par exemple. Mais il faut qu'on puisse rester chez nous. Et ce coup de pouce-là, on est capable de le donner. Et de le donner, je dirais, même aussi comme société.
Le Parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton est victime de son succès. Il doit, par moment, contrôler l'accès.
On n'est pas tout à fait au même nombre de visiteurs qu'on était en 2019, mais certainement une grosse augmentation là, comparativement aux deux dernières années.
Et le Festival de la Fierté d'Ottawa retrouvait son public cet été. Des milliers de festivaliers sont, le 28 août dernier, descendus dans les rues pour célébrer le retour en présentiel de l'événement.
C'est important d'être un allié, c'est important aussi d'être alerte et dénoncer lorsqu'on observe.
Happy Pride! Happy Pride!
Merci d'être avec nous.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chitika, en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Notre premier arrêt se fait au Québec, dans la région de la Basse-Côte-Nord, où des travailleurs saisonniers craignent de perdre leurs prestations d'assurance-emploi dès la fin du mois de septembre. Les mesures transitoires mises en place par Ottawa durant la pandémie pour assurer des revenus aux Canadiens qui perdaient soudainement leur travail, eh bien, prennent fin le 24 septembre. Dès cette date, le seuil d'admissibilité pour se qualifier à l'assurance-emploi, lequel avait été abaissé durant la pandémie, sera rehaussé. Un défi supplémentaire pour les travailleurs saisonniers. Les travailleurs saisonniers, comme ceux qui vivent, par exemple, de la pêche, que ce soit au Québec, dans les Maritimes, les territoires ou ailleurs, risquent de tomber entre les interstices des règles d'admissibilité à l'assurance-emploi si les réformes promises il y a près de 20 ans par les gouvernements successifs et encore l'an dernier ne sont pas mises en œuvre. Marlène Gill, députée fédérale du Bloc québécois et qui représente le comté de Manicouagan, Basse-Côte-Nord, au Québec, martèle qu'une réforme est urgente et nécessaire et qu'elle doit prendre en considération un redécoupage des régions socio-économiques de la province et du pays. Dans un reportage diffusé le 17 août dernier sur canada-info.ca, notre journaliste Pénélope Clermont, qui travaille à Tête-à-la-Baleine en Basse-Côte-Nord, c'est un tout petit village d'une centaine d'habitants, mentionnait que plusieurs travailleurs saisonniers de la région allaient tomber dans ce qu'elle appelle elle-même un trou noir. Elle reçoit d'ailleurs Marilène Gill, députée du Bloc québécois à Ottawa.
On n'a jamais traité de façon équitable les travailleurs de l'industrie saisonnière. Parce qu'au moment où tous les gens avaient de la difficulté à avoir des prestations parce qu'ils perdaient leur emploi, mais là, le gouvernement a décidé de créer de nouvelles normes, des normes mur à mur qui permettaient aux gens, avec un certain nombre d'heures, d'obtenir justement des prestations qui leur faisaient faire le tour du calendrier, si on veut, là, de façon à ce qu'il n'y ait pas de trou noir. Et puis là, ces mesures-là se terminent. Pas comme si on avait le choix, c'est pas que les gens veulent pas travailler, ce sont des travailleurs, mais de l'industrie saisonnière. Donc il faut qu'il y ait une solution qui soit à long terme. Ça changera pas. Je sais que le gouvernement dit qu'il fait des études et puis qu'il consulte, mais depuis 2000, puis même auparavant, hein, parce qu'il y a eu une réforme plutôt qui a fait très mal en 1996, mais ils ont consulté année après année, tous les gouvernements. Il y a eu beaucoup de gouvernements libéraux, bien sûr, il y a eu l'ère Harper aussi. Donc, tout le monde sait qu'est-ce qu'il faut comme solution et tout le monde est prêt. Donc, le gouvernement tarde. Il devait déposer une réforme, d'ailleurs, en juin dernier. Ce qu'il faut maintenant, c'est de la volonté, c'est certain, et de la compréhension du fait que nous, les industries saisonnières, vont demeurer et que, je dirais presque dans une certaine mesure, le fait qu'il y ait de l'assurance-emploi permet à nos communautés de survivre. parce que les gens peuvent rester chez eux. Ils choisissent d'occuper ce territoire. C'est magnifique, la Basse-Côte. On a le droit de vivre en Basse-Côte-Nord. On a le droit de vivre des produits de la pêche, par exemple. Mais il faut qu'on puisse rester chez nous. Et ce coup de pouce-là, on est capable de le donner et de le donner, je dirais, même aussi comme société. Parce que cet argent-là, quand on parle de taux de chômage qui diminue, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui cotisent à l'assurance-emploi, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on a des coffres peut-être encore mieux remplis, peut-être plus généreux. Alors, pourquoi on ne profite pas de ça? Il faut vraiment juste de la volonté. Le gouvernement a réussi avec la PCU, par exemple, et là, il faut qu'il y ait un coup de barre qui soit donné pour ce qui est de la réforme, qui est vraiment une véritable réforme. Mais là, c'est ça. Ça demande tout simplement de la volonté du côté du gouvernement. Mais on a tout ce qu'il faut pour répondre correctement aux besoins de toute la population de la Basse-Côte-Nord, par exemple.
Est-ce que c'est que les voix sont pas assez nombreuses? Est-ce qu'il faudrait plus de gens dans cette situation-là, comme ça a été le cas pendant la COVID avec la PCU, par exemple?
C'est une excellente question. On se dit toujours, oui, la question démographique, mais en même temps, ce qu'on voit souvent à Ottawa, c'est énorme. Hein? C'est le Canada en entier, les territoires. Les réalités qu'on voit le plus mises de l'avant sont les réalités des grands centres. Moi, je suis une députée de région éloignée, donc je pense que vous avez raison pour la question des dossiers, que ce soit des collègues que j'ai en Colombie-Britannique au nord, par exemple, j'ai une collègue qui est députée du Nunavut. On voit très bien que c'est tellement différent, on n'est pas dans le moule habituel, donc il faut sensibiliser énormément les gouvernements parce qu'ils ont tendance, et je ne dis pas nécessairement que c'est de la mauvaise foi, mais ils ont tendance à généraliser et à ne pas comprendre ces réalités. Juste la question du territoire, la question de comment c'est vraiment particulier la Basse-Côte-Nord, c'est presque des îles, je dirais, reliées parfois quelques-unes à d'autres, mais bon, vous comprenez très bien, quand on est sur le territoire, on se dit « oups, il y a vraiment quelque chose de particulier ici », mais c'est ça, on fait du mur à mur, puis on veut souvent parler, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup aux villes, c'est qu'on a l'impression, qu'étant donné que le taux de chômage est bas, que les gens ne veulent pas travailler parce qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre. Donc, les gens vont me répondre, mais il y a une pénurie de main-d'œuvre. Comment est-ce que vous ne travaillez pas? Mais oui, il y a un manque d'intérêt, je dirais, de la part du gouvernement et même, et je suis contente que vous en parliez, mais même de la part des médias. Donc, c'est très difficile de couvrir la question de l'assurance-emploi, même si on répète le message, c'est vraiment quelque chose qui ne perce pas nécessairement dans les médias. L'intérêt du public est moins là. Donc, ils font partie de notre économie.
Oui, j'en profite, puisque vous l'évoquez vous-même, là, pour remettre les gens en contexte qui nous écouteraient d'ailleurs de la Basse-Côte-Nord.
Oui.
Oui, il y a des travailleurs, oui, il y a des problèmes de main-d'œuvre. Par contre, les problèmes de main-d'œuvre ou les manques d'employés sont dans des secteurs très spécifiques et les travailleurs saisonniers de l'industrie de la pêche ne peuvent pas aller travailler au centre de santé et devenir tout à coup infirmière. Non. Donc, c'est ça aussi qui est à remettre en contexte, je pense, là, puis c'est pour ça qu'on le fait ici. Est-ce que, vous dites, l'argent est là, est-ce qu'elle est là à long terme? Il y avait quelque chose dans la PCU qui était quand même là, on savait que c'était pour court terme aider les gens. Est-ce que c'est là à long terme, selon vous?
Oui, bien, l'argent est toujours là parce qu'il y a des cotisations, évidemment, des employés et des employeurs. Donc, l'argent entre dans les coffres. C'est pas le gouvernement qui met l'argent pour ce qui est de l'assurance emploi. C'est vraiment les travailleurs et les entrepreneurs. Donc, moi, je trouve qu'ils ont vraiment leur mot à dire. Nous, on souhaiterait que ce soit une caisse autonome, justement, pour que ce soit eux qui l'administrent. Parce que le gouvernement va pouvoir, et il le fait à plusieurs reprises, on a toujours parlé, Mme Sirois, vous en parlerez certainement, du vol ou du saccage de l'assurance emploi, c'est que le gouvernement va piger dans la caisse pour payer autre chose que des prestations aux travailleurs de l'industrie saisonnière, par exemple. Donc oui, l'argent est là, et comme je disais, plus que de travailleurs, plus que de cotisations, évidemment, plus que la caisse se remplit, même donc si le taux de cotisation demeure le même, alors, pourquoi ne pas l'utiliser? Et merci d'avoir rappelé également la question, justement, c'est un des arguments qu'on entend, mais ils ont juste à travailler l'été dans un domaine et l'hiver dans un autre domaine. Mais ça ne fonctionne pas. Les gens, c'est des spécialistes. Je mettrais beaucoup de gens au défi d'aller travailler dans une usine de transformation du poisson. C'est physique, c'est de nombreuses heures. Les gens ne chôment pas, que ce soit en forêt, que ce soit dans toutes nos industries saisonnières, mais ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas être spécialiste de trois ou quatre choses en même temps. On ne le demande pas aux autres. Donc, il faut permettre aux gens de vivre et de vivre chez eux. Mm-hmm. pense. On ne peut pas priver les gens d'occuper le territoire puis de travailler dans le... Pour moi, dans un des domaines comme l'agriculture, qui sont des domaines nobles, les gens nous nourrissent.
Est-ce que, bon, là, c'est beau de le critiquer, de le dire haut et fort, est-ce que vous êtes plusieurs députés de régions éloignées qui ramenaient ces arguments-là à Ottawa? Comment ça se passe concrètement, là?
En fait, c'est ça, moi, je le vois pas. Je le vois plus comme une, non pas comme une critique, mais comme, disons, une lecture objective des faits depuis une vingtaine d'années. J'ai d'ailleurs été attachée politique aussi il y a une quinzaine d'années. Et bon, c'était le même discours. Tous les députés de régions éloignées où il y a de l'industrie saisonnière, même des gens de la ville aussi. Il y a beaucoup de députés qui sont sensibilisés, qui sont bien évidemment d'accord. Je dis députés, mais c'est leur milieu aussi parce que maintenant, ce sont plus seulement les travailleurs ou les syndicats qui vont en parler, mais également les entrepreneurs, tous les élus. Les élus signifient régulièrement au gouvernement cet appui à une réforme de l'assurance-emploi. Donc, c'est vraiment un mouvement... Je ne crois pas qu'il y aurait personne qui s'opposerait en fait à cette réforme, d'où je dirais d'autant plus ma surprise. Donc, tout le monde le veut, on est capable de faire, ça ne coûtera pas plus cher, ça va solidifier nos économies sectorielles, saisonnières, bref, permettre aux gens de demeurer sur le territoire, hein, sécuriser dans une certaine mesure nos communautés, entre autres les communautés côtières. Donc, tout est là pour le faire. Donc, pour moi, ce n'est pas tant de la critique qu'un constat objectif. Mais ça pourrait se faire vraiment rapidement.
Vous venez d'entendre la députée de Manicouagan, Marilyn Gill, commenter les enjeux entourant le régime de l'assurance-emploi.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Et on se tourne vers les maritimes et on accompagne les vacanciers qui font rougir les statistiques de fréquentation, de même que le calendrier de réservation du Parc national des Hautes Terres du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Le parc qui retrouve presque sa popularité pré-pandémique, affirme Anne-Claude Pépin, officier de gestion des ressources au Parc national des Hautes Terres. 133 000 personnes ont visité le parc entre les mois de mai et juillet, trois fois plus que les 40 000 personnes recensées en 2020 et deux fois plus qu'en 2021, si bien qu'on a même dû fermer à deux reprises le très populaire sentier Skyline, tant il était populaire. Et aucun signe de ralentissement en vue. Des responsables du Parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton anticipent déjà une forte saison automnale, si bien qu'on conseille aux touristes de réserver leur terrain de camping bien à l'avance, et en particulier ceux situés au Cap-Rouge, là où les montagnes se fondent dans la mer, un camping évidemment qui en séduit plus d'un. Rappelons que le Parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton est reconnu pour ses paysages côtiers spectaculaires. Des falaises abruptes et de profondes vallées fluviales découpent un plateau boisé qui borde l'océan Atlantique. Wow! Le tiers de la fameuse Cabot Trail longe d'ailleurs ce parc national. Anne-Claude Pépin, officier de gestion des ressources au Parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton, est au micro de Daniel Aucoin, posté à Chéticamp, Nouvelle-Écosse.
Bonjour!
Bonjour, comment ça va?
Ça va bien. On sait que les deux dernières saisons touristiques au Cap-Breton, 2020 et 2021, ça a été assez difficile en raison de la pandémie de la COVID-19. Cette année, jusqu'à date, comment se porte la saison touristique pour le Parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton?
Oui, bien, on a une saison qui se passe très bien. On a un taux de visitation qui commence à ressembler à ce qu'on voyait en 2019 avant la pandémie. On n'est pas tout à fait au même nombre de visiteurs qu'on était en 2019, mais certainement une grosse augmentation là, comparativement aux deux dernières années. En date du 31 juillet, c'est les derniers chiffres que j'ai, on avait reçu 133 000 visiteurs au parc. Comparativement à l'année dernière, au même temps de l'année, on avait seulement vu environ 30 000 visiteurs. Donc, c'est immense la différence.
Est-ce qu'on s'attend à une forte saison à l'automne au parc?
Oui, ben c'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on voit là. Ce qui est intéressant cette année aussi, c'est que souvent dans le passé, on avait comme vraiment la semaine c'était plus tranquille, les fins de semaine c'était vraiment plus occupé, puis il y avait certaines périodes de l'année qui étaient vraiment des temps plus
plus occupés, alors que cette année, c'est comme constant. Il n'y a pas vraiment de la vallée, les pics. Là, c'est toujours occupé, peu importe la journée. Donc, on s'attend à voir cet automne quand ça continue comme ça.
En général, les terrains de camping au Parc national, ça a été très occupé cette année?
Oui, c'est la même chose pour les campings, une grosse augmentation de l'utilisation des campings. Puis évidemment, bien, cette année, on a ouvert un nouveau site qui est proche de chez Tucan, notre nouveau camping de Cap-Rouge au Mewakitatuk. Et puis c'est un site extraordinaire avec des vues sur la mer et puis un accès qui descend sur le bord de l'eau. Et puis donc ça a certainement joué un rôle aussi dans l'intérêt pour le camping, je pense, d'avoir ce nouveau site.
Cet été, on a vu tellement de visiteurs au parc des Hautes-Terres qu'on a dû fermer temporairement le sentier le plus populaire du parc, le sentier Skyline, à quelques reprises. On dit que le stationnement était complètement plein. Ça cause des problèmes, évidemment?
Oui, bien, c'est ça. Donc, le sentier Skyline, on sait que c'est une icône touristique qui a été promue beaucoup là, à tous les niveaux, que ce soit régional, provincial, national et même international. Donc, maintenant, c'est plus un secret pour personne. C'est vraiment ce que tous les visiteurs qui viennent ont sur leur liste d'endroits qu'ils veulent visiter. C'est aussi un sentier qui est relativement accessible pour tous parce que c'est assez plat, puis le niveau est assez facile, puis la vue, le point de vue au bout est tellement extraordinaire. Mais on a augmenté notre capacité de stationnement dans les dernières années. On est rendu avec un 178 places qu'on peut accommoder. Et puis, une fois que ça s'est plein, ça cause des problèmes d'accès pour les véhicules d'urgence. Les gens commencent à se stationner un peu à des endroits là, qui ne sont pas désignés ou même le long de la Cabot Trail où est-ce que le trafic va vite et puis qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité comme ça en haut de la montagne French. Donc, ça cause vraiment des problèmes de sécurité, de trafic, d'accès aux véhicules d'urgence. Donc ça, c'est une raison pourquoi on doit comme fermer le stationnement à un moment donné quand ça devient plein. L'autre chose, c'est que quand le stationnement est plein, le sentier est aussi débordé. T'sais, on a parlé beaucoup, j'ai fait d'autres entrevues avec vous dans le passé, où on parle de la pression de conservation, de préserver écologiquement la valeur du sentier, des headlands. Là, donc, quand le sentier le stationnement est plein, ben les boardwalks, les plateformes là où on veut que les gens restent sur les plateformes plutôt que piétiner la végétation fragile et rare, sont pleines aussi. Puis donc ce que ça fait, c'est que les gens se mettent ils n'ont plus de place, donc ils vont nécessairement déborder des plateformes puis commencer à faire du piétinement puis avoir un impact négatif sur l'environnement. Donc il y a ce côté-là aussi, c'est que quand le stationnement est plein, le sentier est aussi plein, tu sais, puis ça devient pas une expérience agréable pour personne quand il y a trop de monde. Donc c'est pour ça qu'on met des gens, puis on gère le trafic, puis quand il y a des espaces de stationnement qui se libèrent, ben on peut réouvrir à ce moment-là. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs sentiers dans le parc qui sont aussi beaux. Donc ça, évidemment, dans le même secteur, on a le sentier l'Acadien, il y a le Salmon Pool, je m'excuse, j'oublie mes noms en français. On a le sentier de Corny Brook qui est tout proche. Et puis aussi, les gens sont les bienvenus d'aller visiter, même s'ils ne restent pas dans le camping, dans notre nouveau camping de Cap-Rouge. Ils peuvent aller, s'ils attendent que le stationnement de la Skyline réouvre, ils peuvent aller passer du temps puis voir le camping ou bien le site de pique-nique, l'aire de pique-nique à la Bloc. En tout cas, il y a toutes sortes d'endroits, il y a plein de beaux sentiers. Le sentier de Michael aussi, qui est superbe, qui va sur le plateau. Donc, il y a plusieurs autres options. L'autre chose aussi, c'est si quelqu'un veut vraiment voir la Skyline, bien, normalement, c'est le plus plein. On a des problèmes, c'est plein entre 11h du matin et 4h l'après-midi. Donc, peut-être de prévoir d'aller tôt le matin ou plutôt en soirée, c'est une autre stratégie.
Le parc national des Hautes-Terres avait été durement touché par des inondations l'automne dernier. Est-ce que la plupart des zones sinistrées ont été réparées?
Oui, bien, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail qui a déjà été fait. Je dirais que ce qui est peut-être encore un des impacts qu'on a encore, c'est le sentier de la route pour aller à Marianne Falls, qui est plutôt du côté de Nguniche. Donc, cette route-là nécessitait beaucoup, beaucoup de travaux et est toujours fermée aux véhicules. On espère que ça va réouvrir là, bientôt, là, en septembre. Donc, ça serait peut-être le plus gros impact qu'on voit. Il y a d'autres projets à long terme pour essayer de peut-être améliorer les sentiers là, qui sont en cours de route, mais pour la plupart des dégâts ont été réparés pour que les gens puissent utiliser les sites dès cet été.
Comment important que c'est pour les visiteurs au parc national de bien préparer leur visite à l'avance, comme faire des réservations, se renseigner, visiter les centres d'accueil?
On encourage beaucoup les gens à faire ça parce que comme ça, ils vont pas tomber sur, ils vont pas avoir des mauvaises surprises ou tout en arrêtant au centre d'accueil et en demandant si tel ou tout, si le sentier est fermé, s'il y a des problèmes de congestion, nous, on peut leur proposer le meilleur endroit à aller pour la journée. Donc, oui, ça évite des problèmes. On a une page Facebook, les gens peuvent suivre. Donc, là, il y a de l'information qui est vraiment toujours courante, facile d'accès. Mais on encourage aussi les gens à venir nous voir, à rencontrer notre personnel au centre des visiteurs.
Le laisser-passer, c'est toujours obligatoire pour l'utilisation des services et des installations?
Oui, ça permet au parc ça l'aide avec les coûts d'entretien, évidemment. Donc, ça prend un laissez-passer pour accéder aux aires de pique-nique et aux sentiers, aux plages, les salles de bain, tout ça, du parc, ouais.
Alors, on va te souhaiter comme ça une bonne fin de saison touristique à toute l'équipe du Parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton. Anne-Claude Pépin, qui est officier de gestion des ressources au Parc national des Hautes-Terres. Merci d'avoir jasé avec nous. Bonne fin de saison touristique.
Merci beaucoup, ça fait plaisir.
Bonjour, ici Sébastien Beltran à Halifax. Vous écoutez Point de vue, suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI et écoutez nos reportages sur canada-info.ca.
Et on conclut cette émission sur des airs de fête. Le Festival de la Fierté était enfin de retour à Ottawa après une absence pandémique de 2 ans. Son traditionnel défilé de la Fierté a fait mouche le 28 août dernier. Le défilé qui a réuni des milliers de participants et présenté un spectacle de plus de 3 heures. Près de 200 groupes représentant les intérêts des personnes LGBTQ2+ y ont participé. Le défilé était le point culminant en fait du Festival de la Fierté qui s'est tenu sur une semaine entière du 21 au 27 août pour célébrer, éduquer et sensibiliser la population aux réalités vécues par ces communautés. 8 jours quadrillés d'événements, on y retrouvait des installations d'art public, une nouvelle programmation familiale et jeunesse, des événements axés sur les droits de la personne par exemple. Le thème choisi par les organisateurs cette année était « Ensemble maintenant » pour souligner en fait la fin d'une programmation virtuelle. Marie Hillès est à Ottawa et elle nous a rapporté ce qui suit.
Une ambiance festive lors du concours de la fierté dans la capitale, le jeudi 25 août au sein du Centre national des arts. Des artistes drag de la région s'affrontent pour remporter le titre de mixte, Madame ou Monsieur Fierté dans la capitale de 2022. Francesco McAllister Caruso, directeur des affaires francophones chez la Fierté de la capitale, nous livre les détails de cette soirée si spéciale.
Je crois que les gens vont pouvoir vraiment voir toute la splendeur de la communauté, toute la diversité de la communauté qu'il y a, tant sur le côté masculin que féminin, que androgyne, que tous les autres côtés. Vraiment, c'est une occasion pour les alliés et la communauté de se rassembler puis de vraiment faire le point sur l'art régional.
Franco-ontarien, queer et non-binaire, Francesco est un fier défenseur des langues officielles canadiennes.
On essaie d'année en année de développer notre programmation en français. C'est difficile, évidemment, parce que la plupart des gens connaissent l'anglais. Cela dit, la Fierté dans la capitale reconnaît les apports très importants de la communauté francophone à la communauté de SLGBTQ dans la région de la capitale nationale. Et puis, on travaille d'année en année à améliorer nos services en français et aussi d'améliorer les activités qu'on offre en français. Pour moi, personnellement, c'est important parce que je me retrouve justement à cette intersection-là de la communauté queer et la communauté franco-ontarienne. Mais encore plus important, c'est crucial de montrer que les personnes queer et trans francophones existe dans la région.
Le le beau temps, la musique et un beau public sont au rendez-vous lors du défilé de la fierté dimanche 28 août à Ottawa. André-Anne Martel est la directrice générale du Centre des services communautaires de Vanier. Elle est venue pour soutenir la communauté LGBTQ+.
Pour démontrer notre inclusivité, pour encourager la diversité, puis pour assurer que les services qu'on offre et les services offerts par la ville et les services sociaux sont ouverts à tous. Et assurer d'avoir un environnement très inclusif. Il faut reconnaître que tout le monde peut recevoir des services d'un même pied d'égalité, peu importe la culture, peu importe la race, peu importe la diversité, peu importe le genre. Tout le monde est sur le même pied d'égalité et tout le monde mérite de se faire traiter de la même façon.
Mathieu Fleury, conseiller municipal pour le quartier Rideau-Vanier à Ottawa, n'a jamais vu autant de monde participer au défilé en 12 ans. Il mentionne les enjeux que la communauté rencontre.
C'est toutes des micro-agressions parfois au sein d'organisations, au sein de la communauté, qui peuvent être très difficiles pour les gens de la communauté. Donc, c'est important d'être un allié, c'est important aussi d'être alerte puis dénoncer lorsqu'on observe.
Happy Pride! Happy Pride!
Laurent Francis Goumou est étudiant, chercheur au doctorat à l'Université Laval. Il habite à Ottawa. Il souligne que le gouvernement fédéral et provincial fait beaucoup pour l'inclusion, mais il ajoute que ce n'est pas assez.
J'essaie de surmonter ça. J'essaie beaucoup d'être résilient parce que c'est la résilience qui permet aux gens d'avancer et aussi d'être fort moralement. À force de vivre, les discriminations deviennent fort, en fait. Les discriminations et aussi la stigmatisation, ça nous mûrit, ça nous rend plus fort, en fait. Ce n'est pas le cas chez tout le monde. Il faut faire attention, il faut bien faire attention. Dans mon parcours personnel, dans ma vie de tous les jours, être une personne noire, homosexuelle, queer et une personne engagé, c'est presque le quotidien. En plus, par exemple, être une minorité francophone, immergée dans un milieu anglophone et être homosexuel et être noir, on aimerait avoir plus d'espace en tant que personne francophone LGBTQ+.
Concernant la semaine de la fierté, il reconnaît le travail qu'il y a derrière l'organisation, mais il ajoute qu'un élément lui manquait.
C'est vrai, ils font des efforts. Il faut bien préciser leurs efforts, mais en termes d'intégrer les autres cultures. Le Canada, c'est un pays multiculturel et nous sommes dans la capitale nationale du Canada. Elle est censée être plus inclusive, plus diversifiée. Si chaque fois qu'on va aller voir des spectacles de drag queen, c'est toujours la soft power américaine, la puissance américaine de la musique, comment intégrer donc, comment va se sentir, par exemple, une personne autochtone? Comment va se sentir une personne européenne ou bien une personne africaine, francophone? Parce que si la fierté, c'est pour rappeler les luttes, il faut avoir un plan plus inclusif, au fait, pour que chacun se sente « Oh, vraiment, j'ai suivi une musique qui m'a interpellé. »
C'était un reportage fait par Marie Lès dans le cadre du programme IGL.
Et voilà, c'est tout pour nous, nos journalistes cette semaine, Marie Hillès, Daniel Aucoin et Pénélope Clermont. Merci. Merci à vous, de même qu'à leurs invités. Salutations à notre coordonnateur national, Stéphane Bénard, et aux artistes qui nous prêtent avec tant de générosité leur musique. Merci aussi à l'équipe du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa, qui nous soutient dans la production de cette émission, et on les nomme. Emmanuel Saillé, gestionnaire de programme, Alex Friedman, directeur, Anta Bass-Diallo, agente de programme, et Charlotte O'Brien, chargée de communication, Maureen McEwen, coordonnatrice nationale du côté anglophone. Et puis, on vous remercie, vous et votre station. Merci d'être à l'écoute et de nous offrir vos oreilles. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. À la semaine prochaine.
@CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.